Maintenant, avant que nous prions ensemble, je voudrais lire une parole. Je voudrais demander que nous nous levions pour cela. Une parole tirée de 1 Jean, chapitre 3, du verset 1. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné en nous faisant appeler enfants de Dieu. Et nous le sommes aussi. C'est pourquoi le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons cependant que lorsque cette révélation aura lieu, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Verset 3, et tout homme qui met cette espérance en lui se purifie comme il est pur. Jusqu'ici. Prions. Père céleste, nous te remercions pour cette heure matinale de nous avoir préservés. Ô Seigneur, de nous avoir fait la grâce de nous réunir à nouveau devant ta face, ô Seigneur. Nous te remercions de nous avoir donné ta parole, ô Seigneur, et de nous avoir toujours rappelé de quelle manière, ô Seigneur, tu nous as rachetés, délivrés et purifiés. Mon Dieu, merci à toi de nous permettre d'être tes enfants par grâce, ô Seigneur. Nous te remercions pour cela. Fais-nous donc grâce ce matin aussi, ô Seigneur, d'écouter ta parole, de la recevoir. Accorde-nous la grâce, ô Seigneur, et oint les lèvres et la langue, ô Dieu, par laquelle tu vas parler et tu veux parler, ô Dieu, afin que nos cœurs tous à tous soient touchés, afin que nous puissions, Seigneur, t'apporter l'honneur et la gloire, ô Dieu, car tu es venu pour nous, tu as tout accompli pour nous, tu nous as rachetés et rachetés, ô Seigneur, bénis-nous et aie pitié de nous. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louange et merci au Seigneur. Je l'ai souvent dit, les hommes écrivent toujours l'histoire quand les choses sont déjà arrivées. Toute l'historiographie humaine consiste à rapporter ce qui s'est passé. L'histoire du salut a été conçue de toute éternité et écrite à l'avance. Les prophètes et les hommes de Dieu ont pu écrire avec précision des milliers d'années à l'avance ce qui devait arriver et ce qui allait arriver parce qu'ils étaient sous la conduite du Saint-Esprit. Pour nous tous qui venons de rentrer du voyage en Israël, nous nous en souvenons encore lorsque nous avons lu les prophéties de l'Ancien Testament lors des réunions du soir et que nous avons ensuite contemplé leur accomplissement dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose de sublime, de hors de tout doute, et c'est ce qui compte. Il est impossible de fonder notre bonheur éternel, notre béatitude éternelle, sur des choses qui ne sont pas au-dessus de tout doute. Si une chose n'a pas été prouvée par Dieu comme étant vraie et authentique, alors nous pouvons y mettre un terme. C'est pourquoi en ce lieu nous mettons tout notre poids sur la parole de Dieu. En toute humilité, mais avec le plus grand sérieux, non pas sur ce que les hommes disent, interprètent, pensent et donnent à voir, mais uniquement sur ce que Dieu a dit avec la conscience et la conviction que le ciel et la terre passeront, mais que la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Et tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu en eux portent cette semence divine dans leur cœur. Et cette semence divine doit germer et germera et elle produira un fruit divin. C'est une loi de Dieu que toute chose produise selon son espèce. De même que Dieu a ordonné la création terrestre, il a fait de même avec la création spirituelle. Et nous en sommes si reconnaissants qu'il n'y ait pas seulement une vie terrestre, mais aussi une vie céleste. Pas seulement ce monde, mais aussi l'autre monde. Pas seulement une mort, mais aussi une résurrection. N'est-ce pas quelque chose de glorieux? Imaginez que nous devions être dans ce monde que j'appellerais misérable, sans espérance et sans Dieu. Oui, quel serait alors le sens de la vie? Remercions le Seigneur qui a eu pitié de nous, qui nous a fait grâce et attiré à lui et qui a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Nous l'avons lu dans la parole d'introduction sur laquelle je reviendrai dans un instant. Hier soir, nous avons eu une fête de mariage si harmonieuse et merveilleuse. Je voudrais profiter de l'occasion pour commencer par la parole d'Apocalypse 19, puis revenir à 1 Jean 3, et ensuite très brièvement à Hébreux chapitre 2. Dans Apocalypse chapitre 19, du verset 1, il est écrit: après cela, j'entendis un bruit qui ressemblait à la joie bruyante d'une grande multitude qui criait dans le ciel: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance appartiennent à notre Dieu. Verset 2, car ses jugements sont vrais et justes, car il a jugé la grande prostituée qui troublait la terre par sa fornication et il a vengé sur elle le sang de ses serviteurs. Verset 3, et pour la deuxième fois, ils s'écrièrent « Alléluia !» et la fumée d'elle monte éternellement. Verset 4, alors les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône en disant « Amen, Alléluia !» Verset 5, et une voix s'éleva du trône, criant « Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, qui le craignez, les petits comme les grands. » Verset 6, alors j'entendis un bruit qui ressemblait à l'allégresse d'une grande foule, au bruit de nombreuses eaux et au fracas de forts coups de tonnerre quand il criait « Alléluia, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant est entré dans son règne. » Verset 7, « Soyons dans la joie et l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Verset 8, « Et il lui a été donné de se revêtir d'un lin d'une blancheur éclatante, le lin en effet qui signifie les actes de justice des saints. » Verset 9, « Puis il me dit, écrit, bénis ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Il me dit encore, « Ce sont là les véritables paroles de Dieu. Le verset 10, je me prosternais alors à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, pas du tout, je ne suis qu'un co-serviteur de toi et de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. En effet, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. C'est quelque chose de tout à fait merveilleux. Si nous pouvons sans peine être en accord avec le témoignage global des Saintes Écritures, si nous pouvons accueillir chaque parole avec le cœur, c'est une grande grâce. Nous savons que les choses décrites ici auront également lieu. Il y aura un grand repas de noces et une grande foule qui y participera. La question est toujours de savoir, comme l'exprime le cantique, qui franchira la porte des perles en vainqueur? Est-ce que ce sera toi? Est-ce que ce sera moi? L'entrée aura lieu. Le repas de noces aura aussi lieu. Serons-nous tous là-bas? Par grâce, nous qui avons entendu la parole de Dieu, nous qui sommes entrés à la suite du Seigneur pour le suivre, nous pouvons le revendiquer par la foi pour nous. Non pas par présomption, non pas en raison d'œuvres que nous aurions accomplies nous-mêmes, mais parce que nous nous appuyons entièrement sur ce que Dieu a fait pour nous en Christ. Il est dit ici, de l'épouse, au verset 8, il lui a été donné de se vêtir d'un lin d'une blancheur éclatante. Elle s'est parée. Elle s'est fait préparer pour ce grand et glorieux jour de noces. Et elle peut alors y entrer. Et avec l'époux de nos âmes, nous célébrerons alors le repas de noces dans la gloire. Ici sur terre, on fait tant de choses pour une telle occasion. On décore les tables, on prépare les repas, on veille à ce que tout se passe bien. Quand sera-t-il dans la gloire? Dans la gloire. Avant de quitter cette terre, le Seigneur a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 3, « Je m'en vais, vous préparez une place, et je reviens vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Et Paul l'exprime en ces termes, 1 Corinthiens 2, verset 9, « Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas entré dans le cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. » C'est la condition pour ceux qui l'aiment. Et le Seigneur dit, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Gardez mes commandements. Et notre frère nous a lu que ce véritable amour de Dieu doit se manifester les uns envers les autres et entre nous, entre eux. Il n'y a pas d'homme qui puisse dire « j'aime Dieu » et en même temps ne pas aimer réellement son frère ou sa sœur. Un tel homme se ment et se trompe de haut en bas et n'est pas digne de porter ces mots sur ses lèvres. Auprès de Dieu, seul est valable ce qui peut subsister devant lui. Et seul peut subsister devant lui ce qui correspond aux paroles et aux actes. Si nos paroles ne sont pas en accord avec ce qui se passe, avec notre conduite, nous pouvons nous en passer de les prononcer. Il est dit dans 1 Jean verset 16, 1 Jean 3 verset 16, nous avons connu l'amour à ceci qu'il a donné sa vie pour nous. 1 Jean 3 verset 16, nous sommes donc tenus, nous aussi, de donner notre vie pour nos frères. L'amour de Dieu est un amour actif, et pour parler avec notre frère, un amour qui marche, qui vit, un amour qui se manifeste, qui se communique, qui est entendu, qui est vu, vécu dans la pratique. Il ne suffit pas d'en témoigner avec la bouche, avec les lèvres. Il ne suffit pas. Nous avons lu dans 1 Jean 3, dans le même chapitre, verset 1, « Voyez quel grand amour le Père nous a montré en ce que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes aussi. » Ici, nous avons deux choses qui se suivent directement. Nous devons être appelés enfants de Dieu. Premier point. Deuxième point, nous devons pouvoir dire avec conviction, et nous le sommes aussi. Bénis l'homme qui a bien fait, qui a fait cette expérience réellement avec Dieu. Et vous le savez bien, plus on vieillit, plus on se préoccupe de ce qui se passera lorsque cette vie terrestre prendra fin. Et parfois, nous avons tendance à critiquer les autres et à oublier d'appliquer le critère à nous-mêmes. Mais nous voulons simplement être honnêtes devant Dieu et dire, Seigneur, comment puis-je subsister devant toi, me tenir devant toi? Quelles sont les conditions pour que nous arrivions auprès de toi dans la gloire? Il est facile, et je l'écris même maintenant dans un livre, il est facile de juger et de dire que les gens sont rendus bien heureux par des sacrements qui donnent le salut, et cela de la naissance à la mort, et puis vient cette ouverture après le retour à la maison, qu'ils ne sont pas en haut, mais en bas quelque part. Mais cette critique ou cette constatation ne nous fait pas encore monter, toi et moi. Nous devons être sincères, vrais dans notre cœur, et demander à Dieu de nous montrer le chemin qui nous mènera personnellement au but. Il ne suffit absolument pas de constater que de nombreux chemins ne mènent pas au but. Cela peut être une chose. La seconde nécessaire est de trouver le chemin qui nous mène au but. Faire les expériences avec Dieu qui mettent dans notre vie ce dont nous avons besoin pour pouvoir être pris dans la gloire. Si nous avons, je crois que c'est écrit dans Romains au chapitre 5, là il est parlé de la puissance de Dieu qui doit changer nos corps mortels. Et cette puissance de Dieu doit être en nous pour que ce corps terrestre puisse être changé, transformé. Tout d'abord, dans Romains chapitre 5, il est écrit à partir du verset 4. Romains 5 au verset 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance, verset 5. Or, l'espérance ne conduit pas à la déception, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si nous considérons cette parole avec attention, nous devons nous demander à chaque fois, pouvons-nous dire la même chose? La lecture seule ne nous y conduira pas, ne nous y conduira pas. Nous devons avoir vécu réellement les mêmes expériences. Il faut donc que l'amour de Dieu ait été répandu dans ton cœur et dans le mien par une expérience comme celle que les disciples et plus généralement les croyants ont reçue dans le christianisme primitif. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons un christianisme aplati. Et on dit automatiquement aux gens, vous êtes convertis, vous êtes croyants, vous avez le Saint-Esprit. Sommes-nous convertis? Sommes-nous croyants? Avons-nous le Saint-Esprit? C'est la question. Telle est la question. Si quelqu'un nous dit que tout cela est là, ce n'est pas forcément le cas. Il est toutefois souhaitable que ce soit le cas. Et si cela se produisait, nous le remarquerions tous de toute manière. Ce qui était bien dans le christianisme primitif, c'est qu'il ne se contentait pas de parler de telles expériences ou de les revendiquer, mais qu'il prouvait qu'il en était ainsi. Et nous sommes tous convaincus qu'à la fin du temps de grâce, l'Église doit maintenant revenir à ce qu'elle était au commencement. Et cela implique effectivement que tout ce qui était présent dans l'Église du christianisme primitif soit également aujourd'hui présent à nous. Dans Romains 8, au verset 11, il est écrit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ces jours-ci, nous entendons tant parler du retour du Seigneur, de la transformation, du changement de nos corps, de l'enlèvement, de la rencontre avec lui dans les airs, et puis bien sûr du repas de noces. Et nous nous en réjouissons. Mais ensuite, vient aussi une profonde tristesse liée à la question. Qui sera réellement présent? Il est écrit ici, au verset 11, « Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » Donc, c'est-à-dire que si le même esprit de Dieu habite en nous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra alors aussi la vie à vos corps mortels tel par son esprit qui habite en vous. Nous devons avoir pleinement compris cela, et pas seulement cela. Nous devons nous efforcer d'avoir effectivement la condition nécessaire à la transformation, au changement de nos corps. Et celle-ci consiste à ce que la puissance de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même, est déjà fait dans les croyants son domicile, non pas comme une idée, non pas comme une pensée, mais en réalité. À quoi sert l'idée ou bien la pensée? Elle ne nous transformera certainement pas. Non, le même esprit, la même puissance de Dieu qui a fait sortir Jésus d'entre les morts, ce n'était pas une pensée, une idée, c'était puissance, la puissance de Dieu qui pouvait rendre immortel ce qui était mortel, qui faisait vivre ce qui était mort. Et nous savons bien qu'il y a eu la résurrection le troisième jour, puis l'ascension, l'enlèvement, la montée au ciel. Donc, le même Esprit de Dieu, la même puissance de Dieu doit habiter nos corps mortels pour que nous puissions être rendus vivants par cela, par cet esprit, par cette puissance. Je l'ai dit parfois, je ne veux pas être là quand la déception se fera sentir parmi des millions de personnes lors du retour du Seigneur, des personnes qui pensaient être là, présents et qui resteront en arrière. Les non-croyants ne seront pas déçus ce jour-là. Ils ne seront pas déçus. Ils se moquent et disent aujourd'hui, je préfère descendre. Tous mes amis, ils sont déjà et ainsi de suite. En effet, on les entend souvent dire des choses qui font mal, mais on n'y peut rien. La déception ne sera pas chez les athées et les gens sans Dieu, les impies, ils ne s'y attendent pas. Ils n'ont pas d'espérance, ils ne croient même pas à une vie après la mort. Pour eux, il ne peut y avoir de déception. Ils seront certes mécontents de leur sort, mais la déception sera pour ceux, comme notre Seigneur l'a dit très clairement dans la parabole de Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Et par là, la parabole fait référence à tous les croyants qui seront sur terre lors du retour du Seigneur. Cela passe exactement par le milieu. 5 étaient sages et 5 étaient folles. 5 sont entrés et 5 sont restés. Exactement la moitié. Il en sera ainsi lors du retour du Seigneur. Et la parole est également en rapport avec les noces. Et derrière, elle, nous lisons cette triste parole. Et la porte fut fermée. Cela signifie ici, au verset 3, Matthieu 25, ou déjà au verset 5, comme l'époux tardait à venir, ils furent tous fatigués et s'endormirent. Verset 6, mais à minuit, un cri retentit. L'époux est là. Préparez-vous à le recevoir. Verset 7. Alors, ces vierges se levèrent toutes de leur sommeil et mirent de l'ordre dans leurs lampes. Verset 8. Mais les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Verset 9. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en. Verset 10. Pendant qu'ils allaient acheter de l'huile, l'époux arriva. Et les vierges qui étaient prêtes entrèrent avec lui pour le repas de noces. Et la porte fut fermée. Verset 11. Plus tard, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous donc. Verset 12. Mais il leur répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13. Veillez donc, car le jour et l'heure vous sont inconnus. Bien-aimés, ce que nous venons de lire pourrait déjà se réaliser dans un avenir proche. Proche. Pourrait déjà être derrière nous. Et en effet, le jour est si proche et l'heure est si proche que cela pourrait être d'un moment à l'autre. Ah, qu'en serait-il de nous tous pour que nous créions notre béatitude avec crainte et tremblement et que nous disions, Seigneur, non pas dans l'incrédulité, mais tout de même avec un examen de conscience bien réel en disant, Seigneur, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour te rencontrer? Ou est-ce que cela me manquera à ton retour? Le manque se manifestera-t-il alors? C'est maintenant qu'il faut en être conscient, car celui qui en est conscient, qui s'ouvre et revient alors que la porte est déjà fermée, ce sera trop tard. D'où, toujours dès maintenant ce sérieux avertissement d'être d'abord prêt à rencontrer le Seigneur. Encore une parole tirée de l'Épître aux Hébreux, chapitre 2. Nous y sommes exhortés de manière si pressante et avertis, verset 1, Hébreux 2, verset 1. Nous devons donc nous attacher d'autant plus fermement aux choses que nous avons entendues afin de ne pas les perdre. Verset 2, car si la parole annoncée par l'intermédiaire des anges était déjà inviolable, et si chaque transgression et chaque désobéissance recevait la rétribution qui leur était due, verset 3, comment pourrions-nous y échapper? Verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par de multiples actes de puissance et par des distributions du Saint-Esprit selon sa volonté. Oh, quelle parole glorieuse! Voici l'avertissement. Comment échapperions-nous si nous ne tenions pas compte d'un si grand salut qui a commencé avec notre Seigneur lui-même? Ce ne sont pas les hommes, mais le Seigneur lui-même qui est venu, qui nous a rachetés, qui nous a apporté la grâce, le salut et le pardon. Golgotha est pour nous le point ou alors le lieu où l'événement où Dieu et l'humanité ont été unis, réconciliés et liés l'un à l'autre. 2 Corinthiens 5, verset 9. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Il est fait état ici de témoins auriculaires qui ont communiqué cela de manière fiable. Certains se demandent qui a écrit les Épîtres aux Hébreux. Mais déjà de cela, on ne peut pas dire ici nous étions des témoins oculaires et auriculaires. Mais comme il est écrit ici, qui nous a ensuite été confirmé de manière fiable par les témoins auriculaires. Il en ressort clairement que les Épîtres aux Hébreux ont été écrites par un homme qui a été informé par les témoins oculaires et auriculaires de ce qui s'est passé, de ce qui s'est passé. Parmi tous les apôtres, il y en avait un qui connaissait bien le judaïsme, la loi, la parole de Dieu, qui n'était pas pêcheur, mais qui y avait été enseigné. Dieu a pu l'utiliser de manière particulière pour présenter le conseil de salut d'une manière aussi merveilleuse. Avec une telle vue d'ensemble, nous sommes tous reconnaissants à Dieu que ces hommes, éclairés par le Saint-Esprit, aient pu écrire et enseigner tout ce que nous devions savoir. Et les contextes, les rapports que nous n'aurions jamais pu rassembler ont été reproduits ici de manière uniforme et harmonieuse. Heureux tous les hommes qui se tiennent, qui marchent, pensent et agissent dans le même esprit que ces hommes de Dieu, que cela puisse se transmettre à nous et que nous puissions effectivement, comme eux, être placés dans l'événement divin du salut. Au verset 3, maintenant, comment pourrions-nous échapper à cela? Hébreux 2, verset 3. Si nous ne tenons pas compte d'un salut aussi élevé, celui-ci a en effet commencé par l'annonce du Seigneur et nous a ensuite été confirmé de manière fiable par les témoins auriculaires. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu l'a confirmé et nous l'attendons tout simplement. J'aimerais que cela commence aujourd'hui. que la confirmation de Dieu s'ajoute à sa parole. Dès l'instant où la confirmation divine fait défaut, nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas la certitude d'avoir été exaucé devant lui et que la chose peut et va subsister devant lui. Il est écrit au verset 4 ici, au verset 4, Hébreux 2, verset 4, Dieu en a encore rendu témoignage par des signes et des prodiges, par de multiples actes de puissance et par des distributions du Saint-Esprit selon sa volonté. Les deux choses vont ensemble. La proclamation de la parole et la confirmation de Dieu. C'est ainsi que la parole nous est rendue vivante de manière très personnelle. Nous recevons une certitude et ce n'est pas seulement l'amour qui aura alors des pieds sur lesquels marcher, mais aussi la foi. La foi aussi aura deux pieds saints sur lesquels elle pourra s'appuyer. Et là, nous avons l'Ancien et le Nouveau Testament dans le lien divin par la parole prophétique. Et nous pouvons nous tenir debout dans la foi sur le rocher inébranlable du salut. Dieu nous a fait grâce. Nous entendons ici parler du salut qui nous a été donné, mais que nous devons accepté de manière très personnelle. Nous avons entendu dire que nous devons désormais être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes aussi. Puisse-t-il se réaliser en chacun de nous, se réaliser aujourd'hui. Il ne sert à rien que nous écoutions les prédications maintenant et que nous tournions nos pensées vers l'avenir. Dieu veut que nous lui donnions la réponse sous la prédication de la parole et qu'il puisse aussi nous donner la réponse. C'est là que réside notre besoin. Nous écoutons la parole de Dieu année après année. Nous rentrons chez nous, puis nous y réfléchissons. Rien à redire. Mais en réalité, il faudrait que la prédication nous permette de dialoguer avec Dieu. Et non seulement cela, mais aussi de recevoir la réponse de sa part. Chez lui, les paroles et les actes sont toujours en accord. Pour Dieu, la promesse et l'accomplissement vont de pair. Il ne peut pas dire et ensuite ne pas le faire. Il ne peut pas promettre et ensuite ne pas tenir sa promesse. Non. Chez Dieu, tout va de pair, de manière harmonieuse. D'abord la prédication, ensuite la foi issue de la prédication, et ensuite l'expérience, la réception de ce que Dieu nous a dit par sa parole, par la prédication. Nous sommes convaincus que Dieu veut nous faire des cadeaux riches. Il a l'abondance et il le dit en effet dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, au verset 11. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Et cela continue jusqu'au verset suivant. Je suis venu pour qu'elles aient la vie et qu'elles aient en abondance. Puisse-t-il plaire au Seigneur en ce moment de déposer une telle abondance de bénédictions dans son Église, dont nous voulons nous compter dans la foi, qu'il puisse devenir audible, perceptible, visible, que Dieu ne serait pas seulement en parole, mais en acte, en réalité, avec nous et parmi nous. Celui qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous, qui a versé son sang pour nous, qui nous a rachetés, qu'il soit profondément remercié pour toutes ses grâces, pour sa fidélité, pour nous avoir appelés et attiré à lui par pur amour. Et il a en outre déposé en nous le désir d'être prêt lorsqu'il reviendra pour ramener les siens à la maison. Ce sera pour nous le plus beau jour, bien-aimés. C'est le but ultime de notre prédication. Pas seulement de jouer à l'église ici sur terre avec tout ce que cela implique, mais au-delà du caractère terrestre de l'église, nous voulons être l'église de Dieu, l'église de Jésus-Christ. Et comme le dit un passage de l'épître aux Hébreux, parmi ceux qui appartiennent à l'église des premiers nés. Je crois que c'est au chapitre 12, peut-être déjà à partir du verset 22. Hébreux 12. Peut-être déjà à partir du verset 22. Non, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et de plusieurs milliers d'anges en une assemblée de fêtes. Verset 23. Et à l'église des premiers-nés inscrits dans le ciel et à Dieu, le juge de tous et aux esprits des justes accomplis. Verset 24. Et à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance et au sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Ici, le pont est jeté entre une assemblée locale terrestre et l'église de ceux qui sont inscrits dans le ciel. Pas seulement à une communauté dans laquelle nous sommes inscrits sur terre, mais à l'église inscrite dans les cieux. C'est ce qui est le plus important. C'est à cela que nous voulons appartenir, c'est à cela que nous voulons compter par grâce. Il y a des églises terrestres, mais au-dessus de cela, en plus, il y a une seule église universelle du Dieu vivant, composée de tous ceux qui ont été graciés, qui ont reçu le pardon, qui ont reçu une nouvelle vie, qui ont reçu la nouvelle vie de Dieu, qui ont été remplis de vie divine par l'Esprit de Dieu, d'une puissance divine, et qui peut ensuite nous transformer, nous changer hors de ces corps terrestres pour nous tenir ensuite devant lui. Soyez prêts à vous tenir devant lui et à entrer dans sa gloire. Que Dieu nous donne à tous la possibilité d'être présents à ce grand et glorieux repas de noces. C'est à lui, celui qui a commencé, c'est lui qui finira et qui achèvera. C'est à lui que nous voulons offrir nos remerciements maintenant aussi. Amen. Nous nous levons et remercions le Seigneur ensemble. Père céleste, nous te remercions de tout cœur pour ta sainte et précieuse parole et en outre pour les promesses que tu nous y as faites et que tu accompliras ce que tu as dit. Fidèle Sauveur, nous sommes réunis ici aujourd'hui devant ta face et nous avons entendu ta parole. Dans peu de temps, tout cela sera de l'histoire ancienne derrière nous. Ô Seigneur fidèle, qui passera la porte des perles en vainqueur? Sera-ce toi, sera-ce moi? Qui se joindra au cœur des anges? Seigneur, lorsque cette grande foule chantera devant ton trône, nous aimerions être présents. Aide-nous à cela, aie pitié de nous. Pardonne, purifie, sanctifie, remplis-nous du Saint-Esprit. Dieu fidèle, préserve-nous de la pire des déceptions à la fin de notre parcours de foi. Accorde-nous la grâce devant ta face d'avoir tout ce dont nous avons besoin pour tenir devant toi. Seigneur fidèle, que ton sang sacré, ton Esprit Saint et ta parole sainte soient efficaces en nous afin que nous ne manquions de rien lors du matin glorieux où tu reviendras. Seigneur, nous aspirons à être vivifié par ton esprit, qu'une pluie de bénédiction tombe et que ton esprit soit sur tous pendant la prédication, qu'il agisse dans nos cœurs afin que personne ne parte comme il est venu. Maintenant encore, Seigneur, nous te demandons de nous garder ta parole, que nous puissions la repasser dans nos cœurs et croire que tu l'accompliras. Seigneur bien-aimé, indique-nous le chemin que nous devons suivre. Dis-nous ce que tu veux que nous fassions. Nous sommes ici pour faire ta volonté. Ô Dieu, aide-nous à le faire. Nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Nous restons sur le carreau avec toutes nos résolutions. Nous te faisons confiance et te prions. Aie pitié de nous, sois à nos côtés avec des conseils et des actions et donne-nous la puissance vivifiante, la puissance de Dieu qui nous emporte, qui nous change et nous transforme et qui restera en nous afin que nos corps mortels soient eux aussi rendus immortels. Seigneur, nous prions aussi pour notre frère de Lagos. Nous prions pour toute l'Afrique. Nous prions pour tous dans le monde entier, sur tous les continents. Nous avons encore un souhait. S'il est dans ta volonté, accorde-nous la grâce que ton évangile éternellement valable soit prêché à tous les peuples selon ton saint dessein, comme tu l'as dit toi-même dans Matthieu 24, 14, pour qu'il soit un témoignage à tous les peuples. Accorde-nous d'y participer par grâce. Seigneur, nous voulons offrir comme il se doit, avec fidélité et foi, ton glorieux évangile de salut, de pardon, de réconciliation et de salut à l'humanité. Et nous te prions, ouvre les cœurs pour qu'ils puissent le recevoir dans la foi, y avoir part et être sauvé et bienheureux. À toi, Dieu véritable, nous disons merci de tout cœur par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.